11 novembre 2008. Une dizaine de personnes est arrêtée ce matin-là au village de Tarnac en Corrèze et ailleurs en
France. Demain que s'ouvre en correctionnel le procès du groupe de Tarnac, 3 semaines d'audience après un feuilleton judiciaire de 10 ans.
C'est l'opération Taïga.
Voilà la fameuse épicerie de Tarnac.
Jugée pour dégradation sur des voies de chemin de fer.
Et cette communauté de quelques dizaines de militants qui continuent de se retrouver au magasin général.
Et les gens sont dans une incrédulité totale.
Les personnes qui sont arrêtées sont accusées de faire partie de la mouvance anarcho-autonome. Le village est bouclé.
Pourquoi ils sont venus vivre ici ?
Les habitants sont peu nombreux à accepter
de s'exprimer sur le sujet.
Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai ça. D'ailleurs, des habitants concernés du plateau de Mille Vaches ont décidé d'aller traîner leurs bottes dans le tribunal de grande instance de Paris. Nos envoyés spéciaux suivront donc de très près le procès de l'affaire dite de Tarnac du 13 au 30 mars. Pour vous tenir informés, retrouvez-nous du mercredi au vendredi, après la rediff du magazine de 12h30, pour un récit au jour le jour de ce que nous aurons vu et entendu pendant ce procès. Parce que les blaireaux du plateau ne lâchent pas l'affaire, rendez-vous sur les ondes de Radio Vassivière et en podcast sur le site de Radio Vassivière. Et bonjour à vous, amis de la montagne Limousine et d'ailleurs. Me voilà donc dans les locaux de Radio Campus à Paris pour Radio Vassivière. L'idée étant de vous proposer un compte-rendu d'ordre un peu plus sensible que ceux proposés par la presse nationale. Pendant la durée du procès, nous irons à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le déplacement pour soutenir les 8 inculpés de l'affaire Tarnac. Mais avant de commencer avec cette très intense première journée de procès, je vous propose un rafraîchissement proposé par la Parisienne Libérée afin de replacer un peu le contexte.
Nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité.
Fin 2008, la police débarque à 6h du matin au village de Tarnac, fracassant des portes et rugissant des noms, pendant que l'hélico assure la bande-son. Il est reproché, entre autres inculpés, d'avoir participé à la pose d'un crochet sur la caténaire d'un train à Duisy et d'avoir organisé des actions à Vichy.
On nous a reproché diverses choses, d'avoir saboté des caténaires de TGV en opposition à un transport de déchets nucléaires, d'avoir organisé une émeute contre un sommet de l'immigration qui avait lieu à Vichy, une belle ville de Vichy, grosso modo de constituer une sorte de conspiration internationale anarchiste et subversive, et aussi d'avoir écrit un livre qui s'appelle « L'insurrection qui vient ».
Accusés de terrorisme, les présumés complices se trouvent embarqués dans une fable de police où tout conspire contre eux, espions et ministères, services de renseignement et agents littéraires. L'accusation terroriste finit par tomber. Certes pas d'elle-même, il a fallu lutter face à l'acharnement singulier du parquet et contre un dossier largement falsifié.
Ils n'ont pas pu tenir l'image du terroriste parce que finalement, on a réussi à faire que ça soit trop gros et que ça puisse pas coïncider.
À l'occasion du passage au tribunal de cette aventure assez peu banale, nous allons tenter de vous raconter l'affaire sous son aspect nucléaire. Rappelons d'abord comment fut donnée l'information fabuleuse de ce coup de filet. Car s'agissant de l'atome et de ses apôtres, un train de mensonges peut en cacher un autre.
Leur motivation reste extrêmement floue. Pourquoi s'en sont-ils pris à la SNCF ? Avaient-ils l'intention de tuer ou tout simplement de semer la pagaille ? On ne le sait pas encore.
Jamais un crochet sur une caténaire n'a causé de mort sur une ligne ferroviaire. Caténaire si fragile qu'elle tombe avec le vent. Si ça devait nous tuer, on mourrait plus souvent. À l'heure où s'exprime l'envoyé du JT, les dégradations ont été revendiquées. La DCRI le sait, mais préfère se taire, orchestrant le flou, cultivant le mystère. Surtout ne pas parler des convois nucléaires sillonnant le pays dans un vent de poussière. Surtout ne pas parler des fameux trains castors qui traversent la France dans un silence de mort.
Dans l'actualité en France, la mort d'un manifestant anti-nucléaire qui suscite une très vive émotion. L'homme qui manifestait sur une voie de chemin de fer a été percuté par le train qui transportait des déchets nucléaires vers l'Allemagne.
4 ans jour pour jour après cette cruelle mort, les états nucléaires affrètent un train Castor la nuit du 7 au 8 novembre 2008. Des sabotages perturbent le trafic sur la ligne du convoi, mais pas seulement. Des lignes TGV sont visées également selon un procédé bien connu des Allemands qui stoppe le train sans risquer un déraillement. Les opposants à l'atome, souvent sont germains. Me demandez pas pourquoi, les Français vivent très bien avec leurs 58 yo-yos en béton atomique, leurs piscines à becquerel et leurs déchets toxiques. Ils étaient quand même quelques-uns à protester le 8 novembre 2008, côté français, pendant que 15 000 manifestants chez nos voisins retardaient méthodiquement l'avancée du train. Tout ça n'est pas secret, tout ça n'est pas caché, et les dégradations sont vite revendiquées par d'autres personnes donc que les accusés. Ça, on en a peu parlé. Mais pour comprendre la revendication allemande, il faut faire un détour par le Wendland. Gorleben est une bourgade entre Berlin et Hambourg où une poubelle nucléaire devait voir le jour. Une sorte de bure, pour l'instant dans l'impasse, où des containers sont stockés en surface.
Considérés comme propices au stockage profond, les couches géologiques salines du Wendland sont explorées à partir de 1979. Mais les travaux s'arrêtent en 2000. Depuis, aucun autre site n'a été exploré. Les flux de déchets nucléaires en provenance de la station de traitement de La Hague ont continué d'affluer. En attendant de rejoindre un jour un site de stockage définitif, ils sont parqués depuis 1983 dans un entrepôt, à quelques dizaines de mètres du site expérimental.
Quant aux mines d'Asseux, c'est un monstre industriel. Un tas de bidons rouillés au fond d'une mine de sel. L'exploitant estime qu'il faudrait des milliards pour espérer repêcher les becquerels épars.
On sait aujourd'hui que les fûts contiennent bien plus de plutonium que prétendu au départ, mais encore du cobalt ou du strontium. Les ouvriers passent leur temps à colmater des brèches en injectant du béton. Une course contre le temps, car de manière inexorable, la montagne de granit qui jouxte la mine de sel exerce une énorme pression en bougeant de 10 cm par an.
On a mis des poutrelles en fer et vous voyez comme elles se sont déformées en quelques années. Il y a même des fissures qui apparaissent.
La radioactivité s'échappant des fûts éventrés est telle que ces déchets sont dans l'immédiat inaccessibles. Espérant les récupérer un jour, l'Allemagne continue de dépenser ici des millions d'euros.
Que nous en avons assez, que les responsables de l'industrie nucléaire et de l'administration osent parler de sécurité des déchets nucléaires. Alors que l'industrie nucléaire présente des dangers pour la vie, dont les conséquences sont incalculables pour les générations à venir. Parce que nous en avons assez, qu'on prétende que le centre de stockage de Gorleben apporterait plusieurs milliers d'années de sécurité pour le dépôt des déchets nucléaires, alors que le centre expérimental d'Asseux est menacé de s'effondrer après seulement 40 ans et que les déchets nucléaires y étant stockés menacent de contaminer la nappe phréatique. C'est parce que nous en avons assez que dans la rosée du matin, nous avons reporté notre colère sur les tronçons de transport des déchets nucléaires. Par des incendies criminels et des fers à béton, nous avons agi cette nuit sur les tronçons ferroviaires Paris-Strasbourg, Paris-Lille, Paris-Rhône-Alpes, Paris-Bourgogne, Ludwigshafen-Mayence, Kassel-Bassin de la Roure, Bassin de la Roure-Hanovre, Brême-Hambourg et plusieurs autres tronçons dans la région de Berlin comme signe de notre résistance. On ne saurait être plus explicite, la pose des crochets est un acte politique, coordonné de part et d'autre de la frontière en résistance au transport nucléaire. Mais pour expliquer ça, au journal de 20h, faudrait parler de La Hague, qui elle fait vraiment peur, et des conséquences de cette industrie, ce que l'État nucléaire évite à tout prix. C'est tellement plus simple d'aller filmer la SDAT raflant l'invisible dans une grange à Tarnac, capturant au réveil sous les flashs le chef de guerre du plateau de Mille Vaches.
Lorsque la SDAT commence en général sous la forme d'une enquête préliminaire, à travailler, à produire ses premiers PV, à loger des gens, tout ça. Leur expression, c'est « on construit un groupe ». On construit un groupe.
Ce noyau dur avait conçu une structure qu'ils appelaient la cellule invisible et qui avait pour objet la lutte armée. Il n'est pas exclu que ce groupe ait envisagé des actions plus violentes et notamment contre les personnes.
Le ridicule ne tue pas, c'est parfois dommage. On nous a servi 100 fois de ce fromage, au lait stérilisé de sources policières, que toute la France a bu comme l'agneau sous sa mère. Sauf qu'aucune arme n'a été retrouvée, ni la moindre trace de l'ébauche d'un projet, faisant l'hypothèse d'une attaque meurtrière. Le procureur spécule devant la terre entière. A-t-il été ensuite démis de ses fonctions? Pris en flagrant délit d'affabulation? Ou agissait-il sur ordre du ministère? En tout cas, ça n'a pas brisé sa carrière. 10 ans plus tard, dans sa cape en fourrure, simarre de soie noire, pompon d'or à la ceinture, il observe sur l'affaire un silence abyssal depuis qu'on l'a promu procureur général. Fabriquant des faux PV à tour de bras, assignant en résidence les gens qui ne lui reviennent pas, embastillant à titre préventif tout ce qui ne rentre pas dans leur cadre normatif, police et justice avancent main dans la main, indépendante de l'Élysée comme la farine du pain, entièrement dévouée à leur tâche cruelle. Fera-t-on un jour leur procès à elle ? Elle qui jette en cage de rétention des enfants et même des nourrissons. Elle dont la dérive spectaculaire peut s'observer dans l'Europe entière. Contre le Lyon Turin, des activistes sont accusés d'être terroristes, comme jadis les grèves des mineurs en Angleterre sous le règne de Thatcher. En Allemagne aussi, l'État autoritaire a voulu repeindre en terroristes les antinucléaires avec l'opération dite du crochet doré, qui n'a pas eu le succès escompté. La pêche miraculeuse de la police fédérale s'est finalement soldée par un non-lieu général, et on a vu parfois, dans les manifestations, un crochet scintillant narguer la répression. Cela fait si longtemps que cette affaire sans fin traîne dans les couloirs et passe de main en main qu'on en vient à douter qu'elle trouve son dénouement en correctionnel par un simple jugement. Outre la volonté de criminaliser les antinucléaires allemands et français, cette opération vise à dissuader tous ceux qui refusent d'être antiterrorisés.
Il y a le terrorisme qui existe en effet, qu'on peut considérer qu'il existe sous la forme d'attentats aveugles contre des civils. Et puis il y a l'antiterrorisme qui est un immense moyen de gouvernement, un immense moyen de contrôle de la population.
En fait, on parle abusivement de lois concernant les lois antiterroristes parce que c'est des lois qui consistent les unes après les autres à mettre les services de renseignement au-dessus des lois.
L'antiterrorisme ne protège pas les gens, c'est une forme policière de gouvernement. Un monde paranoïaque, pétri de soupçons, où tout le monde est coupable d'éventuelles intentions. Et il suffit peut-être de réfléchir à ça pour devenir de fait une menace pour l'État.
Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de La Parisienne Libérée sur YouTube et sur son site internet laparisiennelibérée.com. Le contexte étant replacé, revenons donc à la journée d'hier. Le programme de la journée était lourd. Il était prévu sur le planning des formalités de présentation, faire le point sur les témoins qui ont répondu à leur citation à comparaître
et qui n'ont pas répondu à leur citation à comparaître, ils étaient nombreux. Prendre une décision sur la demande d'anonymat des agents de police et sur la demande de transport sur les lieux formulés par les inculpés. Et c'est dans une ambiance étonnamment légère qu'a débuté le procès. Pendant toute la première partie d'échange de formalités, on a pu voir des sourires sur les visages, sur celui de la présidente comme sur celui des avocats de la défense. Un peu moins sur ceux des avocats des parties civiles et du procureur. Assez vite, au bout d'une heure et demie d'audience, il a été demandé au public comme aux journalistes de sortir de la salle afin de débattre de la question des témoins anonymes et du transport sur les lieux. Après 3 heures de débat, la décision a été rendue, vous avez dû le savoir, par les médias nationaux. Les policiers témoigneront anonymement, ce malgré le fait que leur identité soit déjà connue. Et le tribunal se rendra effectivement sur les lieux du sabotage le 23 mars. Par la suite, et malgré de longues minutes à essayer de négocier mon entrée, en essayant un peu bêtement de convaincre un policier de l'importance de la présence d'un média local dans la salle, je n'ai pas pu rentrer à nouveau dans le tribunal. Je sais qu'y ont été évoqués les éléments d'enquête préalables à l'arrestation du 11 novembre 2008, donc Mark Stone, les déplacements aux États-Unis de Julien Coppa et d'Ildine Lévy, etc. Mais avant que tout ça commence, il a fallu vivre un moment surréaliste, l'arrivée des inculpés dans la salle des pas perdus. Je suis allée à la rencontre de 3 membres du comité de soutien pour prendre leurs impressions. Elles nous parlent dans un premier temps de l'arrivée au tribunal.
Une sorte de réalité... nous aimer tomber dessus que mon corps ne connaissait pas.
Bah dans ce sens-là, si on est très corporel, effectivement, c'est comme une odeur de sueur inconnue. C'est pas l'odeur de la sueur qu'on peut avoir quand on a fait un footing ou du jardin. C'est une sueur hyper stressante, quoi. Ne serait-ce que venir dans le public pour assister à l'audience, on nous oblige à se serrer tous les uns contre les autres, se battre les uns contre les autres pour pouvoir rentrer ou pas. Et, ouais, et en fait, on puait tous.
Et tout ça, c'est parce qu'en fait, il y avait énormément de journalistes qui, eux, avaient déjà des places réservées, tranquillou, la moitié de la salle, en gros, pour eux. Et du coup, toute l'autre moitié de la salle devait s'agglutiner et se battre pour pouvoir rentrer. Et du coup, la journée a commencé avec cette espèce d'image, avec des dizaines et dizaines de journalistes avec des grosses caméras et tout ça, qui étaient à l'affût pour voir l'arrivée des inculpés. Ça a un peu marqué le début de la journée où il fallait se battre pour pas être filmé par les journalistes, pas qu'ils filment les inculpés.
Après, le ressenti, c'est là encore, c'est une question d'être confronté à la réalité de cette abstraction qu'on appelle la République, enfin, qui pour moi paraît toujours assez mystérieuse, n'ayant pas vécu à Paris, et ni même à Lyon. Et qui me paraissait toujours un peu lointaine. Et là, de pénétrer dans ce tribunal, mon corps paraît tout petit, il y a des statues en marbre, et oui, il y a une incarnation très directe et en même temps très particulière qui ne peut pas me permettre de dire que c'est vraiment la réalité aussi, parce qu'effectivement ce qui vient d'être dit par rapport aux journalistes, c'est très 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 choquant quand on le vit physiquement, d'être dans une espèce de cohue où on essaie d'entourer les prévenus
pour les amener jusqu'à la salle du... on essaie de les entourer pour les amener jusqu'à la salle du tribunal, et en fait tu te rends compte que toi-même t'es entouré de policiers qui te protègent du cercle de journalistes complètement hystériques, à l'affût d'images.
Oui, qui te protège tout en t'enlevant les objets, en l'occurrence des masques que tu t'avais prévu de mettre. Donc c'est des situations inédites, enfin difficiles à raconter, parce que c'est, tout ça c'est des histoires de corps qui s'entrechoquent, de bousculades, après l'arrivée, l'entrée dans le tribunal, après effectivement ne pas savoir si on pourrait rentrer, parce que on nous avait dit qu'il y avait 150 places, mais en fait les journalistes prenaient beaucoup beaucoup de place, et puis après rentrer là, et puis là entendre tout un langage qui demande beaucoup beaucoup de concentration en tant que personne qui essaient de comprendre comment se déroule la justice.
Pour juste boucler sur cette histoire de sueur, c'est que cette sueur, elle est vraiment bizarre, parce que, on pourrait croire qu'on vient assister à la manifestation de la vérité, et on se rend bien compte que même quand on fait la queue dans le public, on vient se plier à un spectacle, on vient se plier devant la justice, c'est un spectacle qui exige qu'on se plie devant lui pour y assister, quoi.
Michael, quant à lui, n'a pas pu rentrer. On l'écoute.
Je suis un peu choqué qu'il y ait eu plus de journalistes qui soient rentrés que de public et de proches des inculpés. Et que du coup, moi, j'ai passé 4 heures à pouvoir être devant la salle comme un couillon. Ce dont je suis sûr, c'est qu'ils ont fait rentrer 48 personnes du public dans son ensemble, y compris les familles, etc. Et de l'autre côté, en tout cas, eux, ce qu'ils avaient annoncé avant même qu'on rentre, c'est qu'il y aurait 47 places de journalistes, mais apparemment, les gens à l'intérieur ont compté environ 60 journalistes. Donc il y avait au moins autant, si pas plus de journalistes que de proches et de familles, quoi.
Pour celles et ceux qui ont pu rentrer, une fois la cohue journalistique et la file d'attente interminable passée, l'introduction de ce procès trop longtemps attendu a pu commencer. Et c'est plutôt positivement surprise que les membres du comité sont sortis de leur premier après-midi.
Non, ce qui était ce à quoi on ne s'attendait pas vraiment, c'est qu'en fait la juge a laissé énormément de place à la défense et à la parole des inculpés. Et ce qui a permis de vraiment de ridiculiser en gros le procureur sur la première journée et de démonter toute une partie de l'affaire Tarnac. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus fort de cette journée, quoi.
Ouais, il y a des choses qui m'ont vraiment étonnée, parce que j'ai jamais assisté à aucun procès. Mais du coup, j'en ai des visions un peu cinématographiques, assez solennelles, comme ça, avec une juge ou un juge qui dirait taisez-vous, etc. Là, c'était pas du tout le cas, donc c'était assez déroutant par rapport à peut-être à des représentations, mais voilà, il y avait une ambiance assez particulière que là j'ai pas assez de recul pour qualifier. Voilà, avec un sentiment parfois d'idiotie ou d'incompréhension sur ce qui est en train de se dire. Pourtant, je connais bien. Tout ça, on a travaillé dessus, mais dès que ça passe dans la bouche, avec des énoncés de chiffres, de codes, de lettres, de références, et tout ça va très vite, et voilà, c'est un sentiment très étrange.
Sinon, moi, pour le ressenti plus général à l'intérieur de la salle d'audience et tout ça, je dirais que j'ai un sentiment éclatant, quoi. Éclatant, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu la possibilité que la parole soit relativement ouverte, même si c'était la foire d'empoigne, et tant mieux, qu'il y a possibilité de tenter de défaire certains boulons de ce château de cartes, et qu'il y a eu la place, vu que la parole a possiblement été répartie, circulée et tout ça, de se mettre à dévisser par exemple un boulon. Puis on se rend compte qu'il en dévisse un autre, et un autre. Et effectivement, je pense aujourd'hui, le procureur, il a bien mangé ses dents au moins 2-3 fois, et j'espère que ça va bien continuer.
Le ressenti de la première journée est donc plutôt positif, selon elle, bien qu'elle reste vigilante pour la suite.
On a gagné. Non, la première journée, je veux dire. Mais on verra pour la suite, c'est un peu... On ne sait pas, en fait.
Je sais pas, c'est un spectacle en cours duquel on a des prises sur la mise en scène, mais on n'est pas le metteur en scène. Le metteur en scène, c'est la juge qui, pour l'instant, semble jouer un jeu qui serait d'être à l'écoute et d'être assez attentive. Il n'empêche que le lieu, l'architecture, tout ce qui est mis en place et tout le passé de cette histoire et le collectage de micro-informations qui créent des éléments d'ambiance, qui fabriquent un décor et tout ça, on ne sait pas dans quelle mesure le spectacle va tourner dans ce sens-ci ou dans ce sens-là. Et on ne peut pas vraiment faire de pronostic sur la suite, mais le sentiment quand même de... une première journée de procès, c'est une part de soulagement, déjà de vivre cette architecture insoutenable qui vraiment, tu dois te soumettre à elle en permanence et tout ça. C'est que quand même, on les a bien niqués, quoi, je sais pas. On n'a rien accepté qui était inacceptable et que c'est possible de ne pas respecter les règles du jeu. C'est possible de faire du bruit quand on te dit de se taire. C'est possible de te lever quand on te dit de t'asseoir. C'est possible de répondre quand on te dit que t'as pas la parole.
C'est possible de manger des Twix quand on te dit qu'il n'y a pas le droit de bouger dans la salle.
En fait, plein de choses sont possibles. Il faut juste les faire et elles deviennent possibles.
Moi, je serais un peu moins... On les a niqués, etc. Parce que je pense quand même qu'on est dans une dictature en cours, quoi. Enfin... Et qu'aucun pronostic, en tout cas pour ma part, ne peut tenir. Enfin, je suis là, j'écoute, je vois, mais je peux rien dire si ce n'est que la commune, elle existe, quoi. Même à l'intérieur d'un tribunal, et ça, c'est fort, quoi.
Pour ma part, ne pouvant pas rentrer pendant la deuxième partie de l'audience, je me suis rendue au rassemblement appelé à 18h30 devant le tribunal. Un rassemblement très vite avorté par une présence policière ultra massive, 1 pour 10 je dirais, qui ont très vite nassé la soixantaine de personnes qui étaient rassemblées sur la place, empêchant toute possibilité de rester groupée. Personnellement, je suis restée bloquée pendant de longues minutes à me retrouver à nouveau pour la deuxième fois dans la journée à essayer de négocier avec la police, chose manifestement impossible.
On était le
on était sur une place en train d'attendre. 1, 2, 3,
on peut sortir.
Donner le tempo, madame. À un moment, il faut aussi raison garder.
Mais raison garder, mais elle est où ta raison?
Vous avez fait l'école du rire, là,
non? Pour faire ce putain de taf de merde, là, sérieux?
Apparemment, on a été à l'école ensemble, on se connaît.
Un mot, priori.
Ou alors c'est que... On l'a vu.
Manifestement, ouais.
Heureusement,
on est bien contents. Putain, on l'a
pas.
Vos parents, ils vous faisaient sortir par trois quand vous jouiez entre potes de la maison. Sérieux. Alors ça, c'est des heures de travail. C'est des heures de travail, ça, monsieur. C'est du travail, ça. On a mis des heures à le faire, on va pas le jeter. On va pas le jeter là. C'est pas illégal. Mais pourquoi? C'est pas illégal.
Je dis simplement les choses. Ne cherchez pas toujours à comprendre.
Mais non, mais il y a juste que ça.
Ne cherchez pas à comprendre.
Nous, on comprend.
Il y a trois personnes qui peuvent sortir.
Et pas celui qui a la banderole.
Ah, il peut sortir, mais c'est pas
bon. Mais non, et la banderole, c'est à nous.
Je vous dis simplement. Voilà. Il y a trois personnes qui peuvent sortir.
Non, on n'a pas le droit de sortir. On doit laisser la
banderole. Mais
nous, pourquoi vous nous empêchez de passer alors?
Pourquoi vous voulez piquer nos affaires?
Vous voulez faire quoi avec ça?
Personne n'a une banderole.
Il n'y a pas de banderole.
Mais pourquoi il n'y a pas de banderole?
Vous allez faire quoi de la banderole? Vous allez me prendre en photo avec?
C'est relativement pas légal non plus dans votre travail de nous empêcher de sortir avec une banderole. C'est pas une arme. C'est pas.
Voilà, la première session de l'émission éphémère On lâche pas l'affaire arrive à sa fin après une première journée qui m'a paru en durée 10. Le chef d'orchestre ici, c'est la présidente, et si elle a pu être à l'écoute et clémente hier, aujourd'hui est un autre jour. C'est donc sans certitude que j'y retourne, je vous tiens au courant. Le rendez-vous, c'est du mercredi au vendredi, après la rediffusion du magazine de 12h30 et en podcast sur Radio Vessivière. Allez, on lâche pas l'affaire.